Je pense que tout à l'heure, j'aurai l'occasion de parler sur ce qui s'est passé lors de notre dernière tournée. Nous avons fait une tournée de 5 semaines aux USA, Miami, Porto Rico et ensuite la Martinique. Il y a un mois que nous sommes rentrés et je pense que j'aurai l'occasion de partager quelque peu tout à l'heure, quand les messieurs seront là aussi, de ce que le Seigneur a fait au travers de notre ministère et de notre, dans notre tournée. Combien le Seigneur a béni et combien il est merveilleux. C'est vrai que ses voix ne sont pas nos voix, que ses pensées ne sont pas nos pensées, mais le Seigneur a toujours un but dans tout ce qu'il fait. Il a toujours un plan et il ne fait jamais d'erreur. Si bien que quand quelque chose nous arrive qui nous déboussole un peu ou qui essaye de nous mettre hors rail, le Seigneur est là, il contrôle toutes choses et à un moment donné, il nous dit « Eh là, je suis là, ô reine, à la commande. Et je ne permettrai pas que l'épreuve dépasse tes forces. » Dans ces temps de la fin, nous ne savons pas ce qui nous attend, nous ne savons pas ce qui va encore venir, mais en voyageant le monde entier comme nous le faisons, nous sommes quand même conscients d'une chose, c'est que le monde va à sa déchéance et à sa perte et dans une souillure, une pollution toujours plus grande, morale je parle, et je pense qu'on en est toutes conscientes, et nous savons vraiment qu'il en est ainsi, rien qu'en regardant les médias, la télévision, nous voyons le monde s'enfoncer dans un chaos total et de plus en plus grand. Et les gens s'affolaient quand même et se posaient des questions. Sérieusement, je parle du monde là. Alors nous, chrétiennes, nous devons aussi savoir que ces temps de la fin sont ceux qui précèdent le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ en gloire. Mais qu'avant ces temps-là, nous ne serons peut-être pas épargnés de certaines difficultés, de certains problèmes et de certaines persécutions qui se pointent un peu dans différents pays déjà à la porte, où les chrétiens sont persécutés. Nous le savons, hein, aujourd'hui, il y a des pays où les chrétiens sont persécutés. Donc, ne nous étonnons pas si les temps sont de plus en plus difficiles. Mais le Seigneur a dit que quand nous traverserions l'eau, nous ne sombrions pas, et que quand nous traverserons le feu ne nous brûlera pas. Si nous sommes ses enfants, ce que j'espère que chacune de nous est, si nous sommes son enfant, nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur prendra soin de nous. Il nous fera passer par l'eau et par le feu, et nous ne serons pas atteints. Et disons que le Seigneur a dit dans sa parole aussi, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et si cette fin du monde arrive, eh bien, il sera avec nous avec une plus grande intensité, une plus grande force, comme il l'a été avec le peuple d'Israël dans le désert. Combien ça a été difficile pour le peuple d'Israël d'être dans le désert et de marcher seul avec Dieu, sans nourriture quotidienne. Le Seigneur a donné la manne du ciel à chaque jour. Eh bien, nous, dans ces temps de la fin, le Seigneur nous donnera aussi la manne quotidienne. Il prendra soin de son peuple et de nous, ses enfants. Ne craignons donc pas l'adversité, l'épreuve, les difficultés de ces temps de la fin. Et le thème de mon message cet après-midi sera celui-ci. Le Seigneur, ma seule espérance dans l'épreuve. Et je vous assure, personnellement, je viens de passer par une épreuve assez difficile. Et je peux dire que le Seigneur a été à mes côtés. Maintenant que j'en suis sortie, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, mais je peux dire que le Seigneur a été mon défenseur contre toutes les attaques du malin, parce que j'estime que c'était le malin, derrière même des personnes. Vous savez, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous avez à lutter contre les puissances. Et avec un peu de recul, j'en suis bien consciente, et je peux bénir ces personnes-là qui m'ont fait souffrir. Et le Seigneur m'a donné ce merveilleux verset pendant que on me persécutait ainsi. Le Seigneur m'a donné ce merveilleux verset. Heureux serez-vous quand on dira toutes sortes de mal contre vous. Car votre récompense dans les cieux sera grande. Alors, j'estime que c'est un honneur que Dieu m'a fait, comme Samuel l'a dit ce matin. J'estime que c'est un honneur que Dieu m'a fait pour. Il m'a je pense qu'il m'a estimé capable de supporter cette souffrance-là et je l'ai béni. Ça a été difficile, c'est jamais facile quand vous passez par l'épreuve et par la persécution, mais je peux vous dire que le Seigneur vous donne une grâce particulière. Alléluia, alléluia. Alors, j'ai observé une chose, c'est toujours encore dans mon introduction au sujet, le Seigneur, ma seule espérance dans l'épreuve. J'ai observé une chose, c'est que les personnes qui parlent plus de la bonté de Dieu sont celles qui sont le plus éprouvées. Celles qui connaissent le mieux la bonté du Seigneur sont celles qui sont le plus éprouvées. Et c'est dans l'épreuve seulement que nous connaissons vraiment le cœur de Dieu et sa bonté. Et c'est merveilleux de pouvoir, dans l'épreuve, s'appuyer seulement sur le Seigneur. Il n'y a plus personne autour de vous. Il n'y a plus que le Seigneur seul. Et je vous assure que dans la contradiction et l'épreuve et l'opposition la plus grande, le Seigneur vous entoure comme d'une muraille de feu. Il vous garde. C'est ce que j'ai vécu très dernièrement et je le bénis. Je peux vraiment maintenant le bénir de toutes ces difficultés-là. Et je peux dire que le Seigneur m'a béni dans cette épreuve-là. Il m'a vraiment béni. J'estime qu'il m'a communiqué une bénédiction plus grande, une force plus grande, une résistance plus grande, un amour plus grand, une ferveur plus grande pour mon Seigneur. Parce que, quelque part, j'ai payé de ma vie, de ma réputation. On disait toutes sortes de mal contre moi, mais le Seigneur a été mon défenseur et je peux dire qu'il m'a donné une force toute spéciale pour faire quand même, en m'oubliant moi-même, en oubliant ma réputation, ma personne, dans tout ce que vous voulez, en le servant quand même et en donnant quand même. Et le peuple de Dieu a été béni quand même. Et toute la gloire revient au Seigneur. Ça, c'est le véritable évangile. C'est celui qui accepte la souffrance, comme l'a dit Samuel ce matin. En fait, je continue dans ce même esprit dans lequel le Seigneur nous a conduits ces derniers temps. Et je ne savais pas que Samuel allait parler là-dessus, et je pense que mon message fait un peu suite à ce qu'il nous a apporté ce matin. Et il y a pas très longtemps, j'ai lu une méditation en anglais, je crois, où l'écrivain célèbre Solzhenitsyn a dit dans un de ses livres, a raconté l'histoire d'un jeune homme dans son livre qui subitement a été atteint d'un cancer. Un jeune homme. Il avait toute sa vie devant lui. Il pouvait faire ce qu'il voulait de sa vie. Il était plein de santé, de vigueur. Et d'un seul coup, cette maladie qui vient dans sa vie. Vous savez, des fois, nous ne comprenons pas les pensées de Dieu, ni les voix de Dieu. Pourquoi cela? Cette vie de jeune homme s'écroule d'un seul coup. Et il se trouve à l'hôpital avec des autres cancéreux autour de lui. Et c'est là qu'il a commencé à se poser des questions que nous devons aussi nous poser. De quoi vivons-nous? De quoi vit l'être humain? Alors, un de ses collègues de chambre lui a dit, c'est de la nourriture qu'on absorbe. Un autre lui a dit, c'est de l'eau qu'on boit. Et puis lui, il a dit, mais c'est pas suffisant tout cela. On ne vit pas que de ces choses-là. Et Solzhenitsyn a tiré lui-même la conclusion en disant « L'homme vit d'espérance. » Un être humain qui a cessé d'avoir de l'espoir, a cessé d'avoir de l'espérance, ne peut plus vivre. D'ailleurs, c'est pour cela que ces gens-là se suicident, ceux qui n'ont plus d'espérance. Sans espérance, vous ne pouvez pas vivre. Impossible. Donc, quelqu'un qui renonce ou qui n'a plus d'espérance, il a signé son arrêt de mort. Il ne peut pas continuer de vivre. Donc, il se supprime. C'est pas le plan de Dieu, mais enfin, c'est comme ça. L'homme vit d'espérance. Encore faut-il que notre espérance ait un fondement. On peut avoir de fausses espérances, des illusions, desquels on peut essayer de vivre. mais on n'en vit pas vraiment. C'est une illusion. On peut à la limite vivre d'une illusion, mais on ne peut pas mourir d'une illusion. Sinon, toute notre vie et toute notre façon de penser ne serait qu'une vaste tromperie. C'est ce que Solzhenitsyn a déclaré dans son livre. Et le Seigneur, dans l'Épître aux Romains, par l'apôtre Paul, nous a donné un passage qui nous montre quelles doivent être les racines de notre espérance. Et nous allons lire pour cela dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 2, l'Épître aux Romains, chapitre 5. Je voudrais juste lire ce premier passage qui est à la base de cette méditation et qui nous montre les racines de la vraie espérance. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. L'espérance. Or, voilà, le texte de ma méditation. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance que nous avons en Jésus ne nous trompera jamais. C'est elle qui nous tient. C'est elle qui nous permet d'aller jusqu'au bout. C'est elle qui nous permet de persévérer dans les moments difficiles. C'est l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur. Et si parfois l'épreuve nous tombe de toutes parts et que nous ne savons plus de quel côté nous tourner, eh bien, nous avons encore une espérance. C'est Jésus, notre espérance. Parfois, quand même, nous avons vu des hommes de Dieu dans la Bible, comme David, comme Jérémie, qui ont dit, mais ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance. Il y a aussi des passages comme ça dans la Bible, où on arrive à une extrémité et on n'arrive même plus à voir le Seigneur. Notre espérance s'est un peu ternie, éloignée de nous. Et on se sent comment? Environné de poison, de douleur, comme David, le roi David. Et ma douleur peut parfois être si grande que je n'aperçois plus la lumière du Seigneur. Ma douleur peut parfois être si grande que je n'aperçois plus le chemin du Seigneur. Ma douleur peut être parfois si grande que je peux verser toutes les larmes de mon corps et que ça ne m'apaise pas. Ça n'apaise pas mon cœur. Alors, c'est à ce moment-là que le Seigneur se révèle à nous et qu'il nous dit, c'est près de toi que je me trouve et je suis plus près de toi que ton propre souffle. Plus près de toi que ton propre souffle. Si tu es dans l'adversité, dans l'épreuve, et qui de nous ne l'est pas d'une façon ou d'une autre. Je sais, on voyage assez et on rencontre assez de gens pour voir que les chrétiens sont dans l'épreuve, partout, d'une façon ou d'une autre. Sur toute la surface de la terre, d'un pays à l'autre, nous voyageons et nous voyons partout, partout, le peuple de Dieu éprouvé, parce que c'est les temps de la fin et que le Seigneur fait un triage, et parce qu'il veut tester notre fidélité et notre obéissance et notre attachement à lui. Alors, si tu es dans l'épreuve la plus grande, sache que le Seigneur s'adresse à toi et te dit « Jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai, je serai toujours plus près de toi que ton propre souffle et je te conduirai à bon port. Ne crains point, mon enfant. Si tu passes par les difficultés, l'épreuve. » Et à ce moment-là, je vais développer quelques points que le Seigneur a souligné à mon cœur. Le premier point que je veux développer, qu'il est bon de réaliser quand nous sommes dans l'épreuve, parce que ça nous arrive à tous, le premier point, dans l'épreuve, savoir que Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur. Combien il est rassurant de le savoir. De savoir que si des mauvaises choses nous arrivent, Dieu a un plan de paix. Des projets de paix et non de malheur. Afin de nous donner, dit le passage, un avenir et de l'espérance. L'espérance encore. L'espérance. Dans d'autres traductions, il est dit, j'ai pour toi des plans de paix et non de désastre, pour te rendre heureux et non pour te nuire. Regardez ça. Souvent, nous, quand nous sommes dans l'épreuve, nous pensons, ça y est, est-ce que je vais tenir dans le coup? Je vais être détruite dans cette épreuve-là. Elle est trop forte, je vais être détruite. Mais non, le Seigneur n'a pas des plans de destruction. Il ne veut pas nous nuire. Seulement, il permet parfois la fournaise de l'épreuve pour nous tester, pour éprouver notre amour pour lui. En fait, cette réalité de projet de paix, dans la souffrance la plus grande, Joseph, dans l'Ancien Testament, qui est l'image du Seigneur dans le Nouveau Testament, l'a beaucoup vécu. Joseph a été trahi par ses frères, abandonné, vendu comme esclave en Égypte. Il est tombé dans la maison de Potiphar, où, grâce à sa fidélité à Dieu, parce qu'il a résisté à la tentation, il s'est retrouvé en prison. Quelle épreuve, dites ! On pourrait penser, mais là, Dieu s'est trompé. Il aurait dû l'honorer. Il a été fidèle à Dieu dans la tentation. Il a refusé la tentation et il s'est retrouvé en prison. Est-ce que Dieu est juste? C'est la question qui peut venir dans notre cœur. Oui, Dieu est parfaitement juste parce qu'il savait la suite, lui, de ce qui allait arriver. Et nous ne connaissons pas non plus la suite de notre existence. Si bien que nous devons faire confiance au Seigneur qu'il a des projets de paix et non de malheur quand nous sommes dans la fournaise et dans l'épreuve la plus ardente. Dieu est fidèle comme il l'a été avec Joseph. Et Joseph, dans sa prison, a été fidèle à Dieu. Il a transformé sa prison en un lieu de louange. Voilà ce qu'il a fait de sa prison. Et pourtant, c'était de l'injustice au niveau humain. Vous voyez ? C'est que Joseph connaissait son Seigneur et il savait que son Seigneur était avec lui même dans la prison. Il a fait exercer sa foi dans l'épreuve la plus grande. Si nous exerçons notre foi et que malgré les apparences, malgré les difficultés, malgré les problèmes, nous restons fidèles au Seigneur et nous disons, Seigneur, même si tout est contre moi, je crois que dans cette affaire-là, dans cette situation-là, tu as des plans, des projets de paix et non de malheur. Là, on peut dire que nous honorons vraiment le Seigneur. Et que le Seigneur est heureux de nous voir ainsi dans cet esprit, à savoir que nous lui faisons assez confiance pour croire que c'est sa bonté et son amour qui agit, même dans l'épreuve. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et ça, cette espérance-là nous permettra de croire que le meilleur dans notre vie est à venir. Le meilleur est à venir, ne craignons pas. Si pour le moment tout est noir, tout est sombre et que tu n'y comprends rien, ne crains point, le Seigneur est près de toi. Il te conduira plus loin et il a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Le deuxième point que j'aimerais développer ici, et qui va vous aider aussi, parce que justement, comme ces voix sont au-dessus de nos voix, et ces pensées au-dessus de nos pensées, et que parfois nous n'y comprenons plus rien, combien il est bon et rassurant de savoir que mon Seigneur ne fait jamais d'erreur. Et que si des mauvaises choses m'arrivent, c'est par sa volonté qu'elle m'arrive aussi. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est dans un certain plan qu'il le fait. Pas seulement ce qu'il fait est dans un certain plan, mais aussi ce qu'il permet. Et c'est vrai que le mal ne vient pas de lui, le mal vient de Satan, mais comme pour Job, Dieu permet. Pour notre édification, pour notre formation. Et soyons-en conscientes. Les bonnes choses et les mauvaises choses sont permises par Dieu, parfois, pour nous apprendre certaines leçons. Et il y a un passage qui dit, le psalmiste qui dit, que si ses pensées sont au-dessus de nos pensées, c'est par la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens. Les maux aussi. Nous, souvent, les mots, c'est Satan. On n'en veut pas. D'accord, si c'est à cause de notre faute. D'accord, si c'est parce qu'on a fait une erreur, parce qu'on a commis un péché, parce qu'on s'est éloigné du Seigneur. Là, oui, il faut revenir au Seigneur, comme l'a dit Samuel ce matin. Il faut revenir au Seigneur, se repentir de nos mauvaises œuvres. Mais si une mauvaise chose t'arrive et que tu n'as rien fait pour que ça se passe, eh bien, quand même, accepte la leçon que Dieu veut te donner dans cette épreuve-là. Et dis, Seigneur, je veux apprendre cette leçon et j'accepte que tu es souverain et que tu permets certaines choses qui me chicanent, qui ne me conviennent pas, mais Seigneur, j'accepte que les maux et les biens viennent de toi. Tu es souverain et tu ne permettras pas que cette tentation et cette épreuve aillent au-delà de mes forces. Le psalmiste a dit, pourquoi l'homme se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses péchés, des maux qui proviennent de ses péchés. Et à ce moment-là, si vous réalisez que vous avez manqué, que vous vous êtes égaré, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez un malheur qui vous arrive à cause de vos manquements et de vos égarements, revenez au Seigneur et dites-lui, Seigneur, je te demande pardon, je veux changer cela, je veux que tu prennes tout en main, et je m'humilie devant toi, lave-moi dans ton sang précieux et purifie-moi de tout égarement. De tout égarement. Mais ne doutons jamais de l'amour de notre Père Céleste. Jamais. Ni de sa fidélité. Quand des maux nous arrivent, sachant dire au Seigneur, Seigneur, tu as quelque chose à m'apprendre au travers de cette épreuve et je veux l'apprendre. Alors retournons au Seigneur, et laissons-le nous façonner. Nous sommes comme un vase dans la main du potier. Et dans l'épreuve aussi, le Seigneur se sert d'épreuve aussi pour donner certains tours au pot qu'il est en train de former. Et c'est pour cela que, disons-lui, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais tu es mon potier, c'est toi qui façonnes ma vie et je veux remettre ma vie entre tes mains et je veux que tu la façonnes comme tu veux. Comme tu veux, Seigneur. Cette soumission, c'est ça, cette soumission au Seigneur dans l'épreuve. Et au moment où vous dites au divin potier, Seigneur, j'accepte la souffrance, j'accepte la douleur, alors cette douleur-là commencera à s'apaiser. C'est vrai ça, hein? Elle commencera à s'apaiser. Mais tant que vous vous rebellez contre le Seigneur, eh bien cette douleur, elle vous fera mal quelque part. Simplement parce que vous êtes insoumise. Parce que vous n'acceptez pas la main de Dieu qui vous façonne. Alors, je prendrai l'image maintenant d'une broderie. Puisque nous sommes entre femmes, nous savons ce que c'est qu'une broderie. Et un jour, il y avait une femme qui faisait une merveilleuse broderie. Et une autre femme s'approche d'elle, puis dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien joli. Parce que la dame qui faisait la broderie, elle l'avait tournée à l'envers. Et puis à l'envers, vous savez, une broderie à l'envers, il y a des fils qui vont dans tous les sens. C'est pas très joli à voir. Et puis, elle disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle était en train de mettre des fils en ordre, du mauvais côté. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien joli. Et puis la dame lui dit, mais attends un peu. Je vais te tourner la broderie. Elle tourne la broderie. Et de l'autre côté, un merveilleux tableau. Merveilleux tableau. Très beau. Mais du mauvais côté, c'est très vilain à voir. Et notre vie est semblable à cette broderie. Du mauvais côté, très vilaine à voir. Nous ne comprenons rien du tout. Des fils vont dans tous les sens, des directions. On n'y comprend plus rien par moment. Et vous tournez la broderie et vous voyez que ça devient un tableau merveilleux. Et je crois que là-haut, le Seigneur nous montrera le vrai côté de la broderie, de notre vie. Elle nous montrera combien il a fait une œuvre merveilleuse dans notre vie, que nous n'avons pas comprise sur le moment, contre laquelle nous nous sommes peut-être rebellés à certains moments de vie, mais qui était néanmoins un moyen du Seigneur pour achever son tableau. Et nous dirons, Seigneur, merci. Je reconnais que tu ne t'es pas trompé du tout en m'envoyant certaines difficultés, certains problèmes. Parce que vous savez, dans ces temps de la fin, c'est bien joli de dire prospérité, gloire à Dieu, il faut être riche, il faut être bien, bien portant, il faut que tout aille bien, c'est la preuve que Dieu est avec toi. C'est ce qu'on entend, un certain évangile comme ça, de facilité. Mais c'est pas forcément le véritable évangile. Puisque le Fils de Dieu lui-même a été persécuté, le Fils de Dieu lui-même. Alors, c'est quelque part un autre évangile. Ne nous laissons pas berner par ce faux évangile qui nous est prêché actuellement, qui manque de consécration et qui manque de croix. Quand le Seigneur dit « Prends ta croix et suive-moi », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui soumet notre vie. Ça veut dire qu'on accepte les difficultés et les problèmes et qu'on accepte d'être façonné par lui, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et au contraire, quand moi je le vois dans ma propre vie, plus le Seigneur me façonne, plus il me brise, plus il permet des souffrances dans ma vie, et plus je suis proche de vous, des autres, et plus je vous comprends, et plus le Seigneur se sert de moi pour vous encourager, ce n'est jamais en vain que Dieu nous éprouve. Jamais. Jamais. C'est pas par plaisir pour nous éprouver. Il est un Père pour nous, et ne doutons jamais de son amour, quoi qu'il arrive. Jamais. Jamais, jamais. Alors, une troisième pensée. Dans l'affliction, dans l'épreuve, se rappeler que le Seigneur n'afflige pas à toujours, que ça ne dure pas toujours quand il afflige. Parce que quand nous sommes dans une certaine épreuve, nous avons l'impression que le tunnel ne finit jamais, n'est-ce pas vrai? On est dans l'épreuve, dans la souffrance, et on n'en voit pas le bout. On a l'impression que on est engouffré là dans du noir, on ne sait pas où on va, il n'y a pas de lumière, on ne voit plus le bout du tunnel. Et puis, on a l'impression que ça ne finira jamais. Et c'est là que le Seigneur veut nous dire cet après-midi. Je n'afflige pas à toujours, dit le Seigneur. Quand j'afflige, ce n'est pas à toujours que je le fais. Et c'est par compassion, j'use aussi de compassion. Rappelons-nous Job, l'histoire de Job. Il a été affligé. Je crois que c'est l'homme de la Bible qui a été le plus éprouvé, après le Seigneur, bien sûr. Dieu a permis à Satan de toucher la vie de Job parce que Dieu voulait lui montrer à Satan que Job était un homme intègre et fidèle. Donc, c'était un test que Job passait. Et Satan a donc touché la vie de Job en lui enlevant d'abord ses biens, tous ses biens, ensuite en lui enlevant ses enfants, ensuite en lui enlevant sa santé. Pouvait-il aller plus loin encore? Sinon, il lui enlevait la vie. Dieu lui a dit, stop là, hein, pas sa vie. Eh bien, le Seigneur le fait aussi pour nous, comme il l'a fait pour Job. Il dira, stop là, jusque là, mais pas plus loin. Ce n'est pas à toujours que Dieu afflige quand il afflige un homme. Et c'est toujours par amour qu'il le fait. Souvent, le Seigneur est comparé à un fondeur d'or. L'or, c'est un métal précieux, et tous ceux qui connaissent un peu le domaine de l'orfèvrerie, eh bien, vous savez que l'orfèvre fond le métal, et il le chauffe à tel point, et enlève à tel point toutes les impuretés, jusqu'à ce que le fondeur voit son image dans l'or précieux. Jusqu'à ce que. Alors, le Seigneur peut faire la même chose avec nous. Parfois, il chauffe. Il chauffe dans notre vie. Et ça chauffe. Comme on dit. Et ça chauffe. À tel point que le Seigneur est en train d'imprimer son image. Et il n'y a que dans l'épreuve qu'il peut le faire. Quand tout va bien, eh bien nous nous éloignons si facilement du Seigneur. Nous suivons si facilement nos propres voies et nos propres plans. Et le Seigneur, on le met à la dernière place ou à la seconde place, alors qu'il doit être le premier. Et que nous devons toujours chercher à grandir et à refléter son image toujours plus. Alors le Seigneur permet que nos vies chauffent un peu, comme on pourrait dire, pour qu'il imprime, il puisse imprimer son image et que nous reflétions toujours plus sa gloire, sa paix, sa joie, sa douceur. Et il n'y a rien de tel que l'épreuve. Alors, apprenons quand même à dire, même si c'est difficile, j'admets que c'est pas toujours facile, même si c'est difficile, apprenons au moins à dire, Seigneur, je te fais confiance. L'essentiel, c'est que je te ressemble toujours plus. C'est mon but
Et ça doit être le vôtre aussi, de ressembler toujours plus au Seigneur. Et vous savez, si l'affliction dure un peu, l'épreuve dure un peu, eh bien ne perdons pas courage, soyons patientes, parce que l'épreuve ne durera pas toujours. Un jour elle finira. Un jour nous serons au bout du tunnel. Un jour nous verrons la lumière poindre à l'horizon. Et vous savez, même pendant le tunnel, dans ma propre vie, j'ai pu voir, quand j'étais désespérée au niveau de certaines situations, eh bien j'ai pu voir le Seigneur toujours dans l'épreuve. Même que la solution n'était pas encore là, j'ai pu voir le Seigneur donner des petits encouragements, juste pour m'aider à continuer et à dire, Seigneur, j'accepte ta formation. Je vais quand même continuer, je vais quand même aller jusqu'au bout avec toi, même si c'est dur. Je compte sur toi, tu es un bon père. Puisse le Seigneur nous donner cet esprit bien disposé, qui accepte de suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours. Vous savez, souvent on compare notre vie, notre consécration au Seigneur, comme un mariage. Quand on se marie avec quelqu'un, on dit « je me marie avec toi pour les bons et les mauvais jours ». Eh bien, qu'il en soit de même au niveau du Seigneur. Puissions-nous dire au Seigneur « je t'ai donné ma vie et je te fais confiance, je veux marcher avec toi dans les bons et dans les mauvais jours ». Que ce soit facile ou difficile, je continuerai de marcher avec toi. Un quatrième point que je voudrais développer dans l'épreuve, savoir que Jésus est vivant et que parce qu'il est vivant, je peux compter sur lui. Quelle grâce d'avoir un Dieu vivant. Et vous savez, quand Dieu a donné son Fils à la croix du Calvaire, qu'il a dû souffrir l'abandon de son propre Fils à cause de nos péchés que Jésus a pris sur lui. Eh bien, Jésus est allé jusqu'au bout de l'obéissance. Il est mort à la croix du calvaire pour toi et pour moi. Et ensuite, il n'est pas resté mort dans le tombeau. Il est ressuscité des morts. Et il vit à la droite de Dieu. Et c'est pour cela que le sacrifice de Jésus à la croix, c'est la preuve que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus à la croix, c'est parce qu'il l'a ressuscité des morts. Dieu, en ressuscitant Jésus des morts, a dit, j'accepte le sacrifice de mon Fils qui est parfait et je le ressuscite des morts. Aucun autre homme sur la terre n'est jamais ressuscité des morts, seul Jésus. Parce qu'il est le Fils de Dieu et parce qu'il est allé jusqu'au bout dans l'obéissance. Il a porté nos péchés, les tiens et les miens. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est pour cela, parce qu'il est le vivant, parce que Dieu l'a ressuscité des morts, que je peux compter sur lui dans l'épreuve. Je sais que mon Seigneur est vivant et que je peux m'adresser à lui et qu'il entend mes cris. Quand je suis dans la détresse, je crie vers lui. Le psalmiste le dit souvent. Tous les psaumes, vous pouvez lire. David criait à l'Éternel son Dieu et Dieu l'entendait dans son lieu saint et dans sa haute retraite. Et il intervenait au bon moment. Et il interviendra pour toi, ma sœur, qui est dans l'épreuve. Il interviendra pour toi. Il entend tes cris de douleur et de détresse. Fais confiance au Seigneur. Tu peux compter sur lui. Si Jésus n'avait pas été ressuscité des morts, toute notre espérance aurait été vaine. Nous serions sans espérance. Mais parce qu'il est mort et ressuscité, notre espérance est vivante. C'est un Dieu vivant. Et nous pouvons lui dire tout ce qui nous accable, tout ce qui pèse sur notre cœur, tout ce que nous éprouvons, de bon, de mauvais. Disons-lui tout. Apprenons à tout dire à Jésus. Jésus nous écoute. Jésus nous entend. Jésus nous aime. Jésus t'aime, ma sœur. Il t'entend. Il est vivant. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis vivant au siècle des siècles, a dit le Seigneur. Et parce que je suis vivant au siècle des siècles, et que je tiens le monde entier dans ma main, je tiens aussi ta petite vie dans ma main. Qu'est-ce qu'une petite vie pour le Seigneur? Que sommes-nous? Nous sommes un grain de poussière aux yeux du Dieu vivant trois fois saint. Nous ne sommes rien du tout. Et pourtant, Dieu a donné son propre fils pour te sauver d'une condamnation éternelle. Et donc, quand tu te trouves dans des problèmes, tu peux compter sur lui parce qu'il est vivant. Et il intercède, nous dit la Bible, jour et nuit pour chaque temps. Jour et nuit, quelle consolation. C'est merveilleux de savoir que Jésus intercède. Et le Seigneur a dit, ma domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et mon règne n'aura jamais de fin. Je suis et serai toujours ton espérance parce que je vis au siècle des siècles. Alléluia, Seigneur. Tu es assis sur le trône et tu règnes et tu tiens toutes choses dans ta main. Je peux compter sur toi parce que tu es vivant et parce que tu n'as jamais, jamais trompé personne. Ton espérance est une espérance. Je reviens au départ dans l'Épître aux Romains. Ton espérance est une espérance qui ne trompe point. Celle-là est la des vraies racines. Des vraies racines. Seulement celle-là. Alors, un autre point. Dans l'affliction, je veux m'approcher du Seigneur et découvrir qu'il est véritablement le soutien de ma vie. J'en reviens à Job, l'homme le plus éprouvé des Écritures, après le Seigneur. Et pourtant, Job a pu dire que l'espérance est le soutien du malheur. Quelle parole! Quelle parole! Pesons un peu ces paroles-là. Mesurons un peu ces paroles. L'espérance est le soutien du malheur. Il a aussi déclaré que dans son malheur, il se rappelait de la grande fidélité de son Dieu. Il a dit que Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et David, le roi David, quand il était dans le désespoir, s'est aussi rappelé que l'Éternel se souvient du malheureux. Si tu es malheureuse, eh bien rappelle-toi que le Seigneur et le soutien de ta vie, et qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il ne te laissera jamais. Nous servons un Dieu qui nous écoute, et il n'est pas sourd à notre cri, c'est là notre espérance. Et il a toujours une solution. Il nous soutiendra, et il fera concourir toutes choses ensemble pour sa gloire. Et vous savez, vous pouvez être dans une situation terrible. Nous pouvons être dans une situation terrible. Notre pays peut s'écrouler. Notre président peut s'écrouler. Notre famille peut s'écrouler. Notre foyer peut s'écrouler. Notre travail peut s'écrouler. Mais il y en a un qui s'écroulera jamais. C'est notre Seigneur qui est le Dieu vivant. Et le Seigneur veut dire à quelqu'un ici qui a des problèmes de travail. Le Seigneur veut te dire, tu es sans travail et tu doutes de ma providence dans ta vie. Mais je pourvoirai à tes besoins et tu trouveras du travail. Parce que je peux donner du travail à celui qui n'en a point, comme je peux donner à manger à celui qui n'a rien à manger. Je l'ai prouvé dans les siècles passés, je le prouve encore aujourd'hui. Et vous savez, j'ai eu bien des témoignages de personnes qui ont été touchées ainsi. Il n'y a pas très longtemps, il y avait une dame, j'avais une parole comme cela, et cette dame est venue quelques jours après dire, maman m'a donné du travail. Le Seigneur tient ses promesses. Il ne parle pas pour rien dire. Et je peux dire que ça m'a beaucoup encouragée, je fais une petite parenthèse là, ça m'a beaucoup encouragée de voir que le Seigneur tient ses promesses et que quand il parle pas pour rien dire. Quand nous sommes arrivés à Porto Rico, là, il y a 2 mois, 1 mois et demi, eh bien, il y a une dame qui est immédiatement venue m'embrasser, m'a dit, oh ma sœur, elle parlait en espagnol, mais elle s'est fait traduire, oh ma sœur, je suis si heureuse que tu reviennes cette année. tu ne sais pas les grandes choses que le Seigneur a faites pour moi. » Et j'ai dit, ah oui, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, l'année dernière, à la réunion des dames, comme nous avons cet après-midi, tu avais donné, à la fin de ton message, une parole de connaissance, que le Seigneur touchait quelqu'un qui avait le cancer. Cancer du foie ou d'un organe digestif, je ne me rappelle plus. Et cette femme-là était venue à la réunion des dames le matin. Et le Seigneur avait déjà commencé à agir. Elle avait le cancer en phase terminale, elle était condamnée par la médecine. Et ce matin-là, une petite jeune fille s'est approchée de cette dame qui avait le cancer. Et elle lui a dit, ce matin, le Seigneur va te guérir. Déjà cette petite dame, le Seigneur a utilisé cette dame-là aussi, ou jeune fille. Et puis à la fin de mon message, comme cet après-midi, je me rappelle, j'avais parlé sur l'importance d'être constamment renouvelé dans le Seigneur. Et à la fin, j'avais dit, le Seigneur touche quelqu'un, une dame ici, qui a le cancer. Le Seigneur te guérit. Et bien, cette femme a été touchée à cet instant-là. Elle a été guérie. Elle a rendu témoignage pendant toute l'année passée, dans son église, de la délivrance du Seigneur. Et elle est confirmée médicalement. Il y a un médecin dans le comité de l'église, et il y a son médecin personnel aussi. Il y a donc, en tout cas, plusieurs médecins qui ont constaté sa guérison. Et alors qu'elle était condamnée par la médecine, le Seigneur tient ses promesses. Quand il parle pas pour rien dire. Et c'est merveilleux de voir ce que le Seigneur fait quand nous sommes dans l'affliction, combien il est rempli de compassion et d'amour pour chacune de nous. C'est merveilleux de connaître le cœur du Père. Il est un bon Père pour chacun de nous. Alors, un autre point, j'ai un peu devancé dans l'épreuve. La force de mon espérance est de savoir que mon Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Là, j'ai un peu devancé déjà. Et l'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui et en lui l'amen. Et Élisabeth, la cousine de Marie, a pu dire à sa cousine Marie, heureuse, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement. Une promesse de Dieu tient en elle déjà l'accomplissement. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Et nous le voyons tout au travers des Écritures. Et nous voyons les prophéties bibliques, on pourrait en dire très long là-dessus, sur Israël, le peuple d'Israël. Et tout cela, tout ce qui a été écrit s'accomplit. Et tout ce que tu as promis s'accomplit aussi. Et tout ce que Dieu t'a promis s'accomplira tôt ou tard. Même si ça prend du temps, Dieu accomplira ses promesses à ton égard. Même si ça prend du temps. Alors nous, gens du 20e siècle, nous sommes toujours très pressés. Presse bouton. Allez Seigneur, tu m'as promis, maintenant tu le fais, hein. Et puis on donne des ordres à Dieu. Comme il a été dit. C'est maintenant, hein, Seigneur, sinon tu ne verras plus à l'église. Sinon je donnerai plus la dîme. Sinon je prierai plus comme avant. Non, non, non. Quand Dieu ne répond pas, c'est aussi une réponse. Ça veut dire pas maintenant. Mon enfant pas maintenant. Ma fille pas maintenant. Attends. Et les temps d'attente de Dieu ne sont jamais du temps perdu. Jamais. C'est parce qu'il nous dit, c'est pas mon moment maintenant. Laisse-moi choisir le temps de mon intervention, dit le Seigneur, dans ta vie. Toi, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mets-moi dans ma science parfaite. Il est le scientifique des scientifiques, le savant des savants. Il est l'intelligence suprême. Comment peut-il faire des erreurs, lui qui a créé le monde, et toute l'harmonie du monde, et toutes les cellules du monde, et tous ton corps qui est une merveille? Alors fais-lui confiance. Quant aux décisions de ta vie, remets-lui les rênes de ta vie, et dis, Seigneur, si je dois attendre, j'attendrai. Mais je sais que tu ne fais pas d'erreur, et que tu interviendras juste au bon moment. Et moi, en attendant, j'accepte d'attendre. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de courir que d'attendre. C'est beaucoup plus facile d'agir que d'attendre. beaucoup plus facile, et le Seigneur le sait. Et c'est là que il fabrique en nous les fruits de l'esprit, en particulier celui qui s'appelle la patience. Ah, on n'aime pas ça, les gens du 20e siècle. Ah, ça, on n'aime pas ça. Hein. On est toujours trop pressé. Parce qu'une heure, c'est peut-être 1000 ans à son compte à lui. Il n'est pas pressé. Et il saura attendre le bon moment. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que ce temps d'attente dans lequel nous nous trouvons jusqu'à ce que Dieu réponde, c'est en tout cas pour nous apprendre deux choses. Une chose, c'est que quand au moment où Dieu répond, eh bien, la réponse, nous savons qu'elle nous vient de Dieu. Nous le savons à ce moment-là, parce que nous l'avons assez attendu. Nous avons assez prié, nous avons peut-être assez jeûné, nous avons assez pleuré, nous avons assez cherché la face de Dieu. Donc, pas de doute dans notre tête. Quand la réponse vient, à force d'attendre, eh bien, nous savons que c'est Dieu qui a répondu cette fois-là. Et nous n'attribuerons pas la réponse que nous obtiendrons à quelqu'un d'autre, au Seigneur. Donc déjà pour ça. Et deuxièmement, dans cette attente que Dieu permet parfois, eh bien, c'est aussi et surtout pour nous apprendre de précieuses leçons et pour nous attirer toujours, toujours plus près de lui et pour que son image se façonne en nous, comme je l'ai déjà dit. Mais ça n'enlève rien au fait. Si Dieu nous fait attendre, ça n'enlève rien au fait que Dieu tient ses promesses. C'est pas parce qu'il attend, c'est pas parce qu'il décide d'agir plus tard et de répondre plus tard, qu'il ne tient pas ses promesses. Gardons-nous de dire, Seigneur, tu n'as pas tenu ta promesse. Non, c'est juste une question de temps. Et si même tu ne devais pas voir l'accomplissement de ton attente sur cette terre, eh bien, en tout cas, Dieu tient quand même ses promesses et tôt ou tard, il agira. Et nous avons eu des témoignages et nous savons que même si nous devions partir de ce corps, aller auprès du Seigneur, eh bien le Seigneur n'a pas fini d'agir, par exemple dans nos enfants, par exemple dans ceux qui nous sont chers, et qu'il a son temps, et ils sont à l'école du Seigneur, et le Seigneur sait comment il doit faire, et il fera parfaitement les choses, et nous, si nous lui mettons le bâton dans les roues, eh bien nous cassons tout, et nous ne faisons que des dégâts. Alors laissons le faire. Il est beaucoup plus sage que nous. Et il fera beaucoup mieux que nous. Et il ne cassera pas tout. Quand il interviendra, ce sera juste au bon moment. Quand il aura préparé le cœur de la personne en question pour laquelle nous prions. Et ce sera tellement plus beau que tout ce que nous aurions pu faire nous-mêmes. Tellement plus beau. Alléluia. Alléluia. Un autre point dans l'affliction, dans l'épreuve, savoir une chose, c'est que le Seigneur est notre seule espérance. Il y a des moments où nous sommes dans l'épreuve et nous pensons, ah ben tiens, je vais essayer de sortir de cette épreuve-là, de ces difficultés-là, et puis vous commencez à agir vous-même, à aller dans une certaine direction, et vous apercevez bien vite que vous heurtez à un mur et que rien ne se passe, et que c'était vous qui avez cherché à sortir de cette épreuve-là. Que c'était pas le Seigneur qui vous a fait sortir. Avant le temps, toujours, parce qu'on est pressé. Et c'est à ce moment-là aussi que vous réalisez que dans certaines situations de votre vie, il n'y a que le Seigneur qui puisse intervenir. Que lui. Ça dépasse infiniment nos compétences, infiniment tout ce que nous pouvons penser. Et nous devons savoir que ces sentiers sont miséricorde et fidélité. Dans ces temps de la fin, nous devons savoir que le Seigneur est à nos côtés. Et que quand il n'y a plus de solution possible, plus d'intervention humaine possible, lui, il peut encore trouver un chemin de sortie. Mais notre espérance est lui. C'est lui seul, et nos yeux doivent être fixés sur lui, et nous devons être dépendants de lui et de lui seul. Ça me rappelle un événement qui s'est passé il y a quelques années dans notre vie avec Samuel. Nous étions dans un pays où la situation est très difficile et où il y a beaucoup de satanisme. Et nous étions en danger de mort avec Samuel. Nous sommes arrivés dans le pays et on a cherché à nous détruire. Si bien que les pasteurs ont crié au Seigneur, ont dit « Seigneur, ils sont une bénédiction à ton peuple dans différentes nations, ne permet pas que on les touche ici, dans notre pays. » Et ils ont commencé à prier pour nous, à veiller sur nous, à nous escorter, enfin à faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Et la puissance de Satan a été déchaînée contre nous, parce que même au niveau du gouvernement, ils ont cherché à nous détruire. Ils ont envoyé leurs sorciers sur le terrain pour nous détruire par leur sorcellerie. Mais ils n'ont pas pu toucher personne. Ni Samuel, ni moi, ni les pasteurs qui étaient sur l'estrade, nous faisions une grande campagne d'évangélisation. Ni les chrétiens, ni les non-chrétiens qui étaient venus écouter la parole de Dieu dans la foule sur le terrain. Ils étaient 7, je ne sais plus combien, satanistes qui sont venus faire leur sorcellerie contre nous. Et ces gens-là arrivent à tuer quand même, par leur sorcellerie. Mais quand Dieu est avec vous, il met autour de vous une muraille de feu, une muraille, un bouclier, et personne ne peut vous toucher. Même le gouvernement était contre nous, ils nous ont salis, nous ont mis dans les journaux, et première page, et ils ont mis qu'on était venus comme espions, Samuel et moi. Toutes sortes de choses abominables, qui ne sont pas vraies, mais le Seigneur nous a protégés. Il nous a gardés, et il m'a donné une vision à ce moment-là, à peine arrivé sur le terrain, il m'a montré qu'il était le maître. Je ne savais encore rien du tout. Les gens disparaissent toutes les semaines. Le Seigneur m'a montré, quand nous sommes arrivés, il m'a donné cette vision, je l'ai vue sur le trône, assis sur le trône, donc en maître et Seigneur qui règne, et sous ses pieds, comme une boule, toute la puissance de Satan, paralysée, sous les pieds de Jésus. Et vous savez, c'est extraordinaire parce que je voyais la puissance de Satan qui voulait sortir, alors des démons là qui voulaient faire leur cinéma. Et chaque fois, il y avait comme la puissance de Dieu qui les remettait en place. Paf, allez, sous les pieds de Jésus, sous les pieds de Jésus, et sous les pieds de Jésus. Et le Seigneur était vainqueur. Et personne n'a pu nous toucher. Nous étions comme environnés d'une muraille de feu. Le Seigneur a été puissant et nous a gardés. Il a été notre seule espérance. Et les pasteurs, en voyant que personne ne pouvait nous toucher ainsi, ont pris confiance. Ils ont dit, le Seigneur est leur seule espérance, nous aussi. Et ils ont repris le courage. Parce qu'ils étaient un peu découragés, ça se comprend aussi dans les difficultés dans lesquelles ils vivent. Et ils ont recommencé à servir le Seigneur. Et à exercer leur ministère. Ça a été une grande, grande bénédiction. Merci pour vos prières quand même. Parce que je crois que vos prières nous ont servi aussi. Vous savez, quand nous sommes loin ici, nous vivons toutes sortes de choses. N'est pas toujours facile et nous avons besoin. C'est là que nous sommes solidaires les uns des autres. Et que si nous partons, vous êtes avec nous, vous êtes derrière nous et vous êtes une grande bénédiction. J'en arrive à mon dernier point. Dans l'épreuve, quelle grâce de savoir qu'un jour je serai près de lui. Ça, c'est notre espérance ultime et suprême. Un jour, nous serons près de lui dans le ciel pour toujours consoler à ses côtés. Et vous savez, l'apôtre Paul disait aux Philippiens, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus. Levons nos yeux, car notre rédemption approche. Un jour, la trompette sonnera. Un jour, le Fils de Dieu descendra sur les nuées du ciel. Un jour, nous entendrons son cri, le cri de l'époux, et il sortira ceux qui sont morts dans les tombeaux, et il les attirera, lui, sur les nuées du ciel, et nous serons transportés avec lui, jusque dans sa gloire. Et un jour, nous serons près de lui, et toutes ses souffrances, toutes ses épreuves, tout cela sera du temps. Nous serons pour le temps et pour l'éternité devant sa où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni cris, ni rien de semblable, où les choses anciennes auront disparu, où toutes choses seront devenues nouvelles. et où le Seigneur posera ses yeux sur nous et dira, vois combien je t'ai aimé. Est-ce que cela ne valait pas la peine de me faire confiance? Durant ton séjour sur la terre, notre séjour sur la terre un jour prendra fin. Les uns plus tôt, les autres plus tard. Mais un jour, nous passerons par la même porte tous. Soit nous serons enlevés parce que le Seigneur viendra nous chercher, soit ce sera dans la tombe, mais de toute façon, nous ressusciterons. Et ce sera le même lot pour chacune de nous. Donc, ne vivons pas pour cette terre, ne vivons pas pour les biens de ce monde qui passeront. Mais vivons pour le ciel. Et toutes les épreuves de cette terre ne serviront qu'à une chose, à nous préparer pour le ciel. Et pour une place dans le ciel, et pour un travail dans le ciel.
Jésus, tu es si précieux pour moi. Jésus, tu es si précieux pour moi. Et je t'aime, oui, je t'aime, toi qui m'as aimé.